Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il y a 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h01, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est l'heure du Canu Info. Tout de suite, les titres.
Donc aujourd'hui, dans la rubrique internationale, on va vous parler vite un petit peu du Congo, de Trump qui raconte n'importe quoi, mais bon, je sais pas si c'est vraiment une nouvelle. Des élections en Équateur, de la grande manifestation à Barcelone et du barrage du Ceuta. Au national, on parlera de la nouvelle de la nouvelle loi qui vient de passer, c'est tout frais, ça vient de jeudi, sur la politique, la sécurité publique, voilà. Donc voilà, ça va être génial. On parle aussi de Bure, donc Bure qui déclare sa flamme à Landa.
Si on pouvait éviter de rigoler pendant qu'on raconte les titres, tous plus horribles les uns que les autres.
Un peu de respect. De Macron qui est complètement opportuniste, donc c'est pareil, c'est pas non plus hyper nouveau. Et de la mort de Xavier Belin. En local, on parlera de la Croix-Rousse, de transformation à la Croix-Rousse, de rénovation urbaine d'une nouvelle tour et de l'augmentation des amendes.
Et après, un petit dossier sur l'éducation nationale et l'école de la République.
Alors juste pour commencer dans la série des horreurs, au Congo, les massacres continuent. Donc c'est ce week-end, plus de 25 morts encore de personnes, en fait des conflits interethniques avec le gouvernement derrière et avec des conflits miniers. Donc on va partir, on va faire un petit tour aux États-Unis.
Oui, effectivement, Trump un jour, Trump toujours. Et oui, le 45e président des United States of America a fait encore des siennes. Samedi 18 février, il a expliqué devant ses partisans en Floride qu'il est dangereux d'accueillir les réfugiés. Dixit, vous regardez ce qui se passe en Allemagne, vous regardez ce qui se passe la nuit dernière en Suède. En Suède, qui aurait cru en Suède ? Ils ont accueilli un grand nombre de migrants. Ils ont des problèmes qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Regardez ce qu'il se passe à Bruxelles. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Regardez Nice. Regardez Paris. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé en Suède le 17 février au soir ? Cherchons bien. En fait, rien du tout. Absolument rien. Pas d'attentat. Mais... notons un reportage sur Fox News, sur la Suède, que la chaîne a diffusé. Donc, vous connaissez Fox News. Fox News, c'est une chaîne ultra conservatrice. Et donc, cette chaîne a diffusé une interview d'Amy Horowitz, auteur d'un documentaire sur les migrants en Suède, avec un point de vue, comme vous pensez, ultra catastrophé. Bon, il rectifiera sur Twitter le 19 février hein, avec cette phrase « Ma déclaration concernant ce qui se passe en Suède faisait référence à une séquence diffusée sur Fox News à propos des migrants en Suède. » Bon, heureusement qu'il n'est pas président des USA et que les poules ont des actions chez Colgate. Alléluia, nous sommes sauvés.
Fox News, premier sur l'actu de la banquise. Pardon. Donc, et moi, j'ai envie de la faire. Donc, on reste sur le continent américain et on va en Équateur. Donc, les Équatoriens, ce week-end, étaient appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président après plus d'une décennie de présidence de Rafael Correa, l'homme du socialisme du 21e siècle. Il faudra encore m'éclairer sur ce qu'est le socialisme du 21e siècle, mais a priori, ça n'a pas grand-chose à voir avec le socialisme. Donc, cette fois-ci, Rafael Correa ne se représentait pas. Trois mandats, c'est déjà pas mal. C'est donc son poulain, Lénine Moreno, ça ne s'invente pas, qui était favori dans les sondages, mais quand même pas tant que ça. Donc, on connaîtra les résultats définitifs dans 72 heures, puisque Lénine Moreno est à seulement, là, au moment où je vous parle, 0,9 points de remporter les présidentielles sans avoir besoin d'aller au second tour. Ça a été le cas deux fois déjà pour Rafael Correa, hein, de gagner dès le premier tour. Là, l'enjeu est assez important parce qu'en 11 années de mandat, Correa a vu sa cote de popularité quand même pas mal chuté. Alors certes, il a nettement contribué à réduire la pauvreté, mais la dette publique a triplé. Donc en fait, la stabilité de cette réduction des inégalités, elle est sans cesse remise en cause par une économie un peu défaillante. Il a promis beaucoup pendant ses mandats, mais en fait, de progressisme, il a était absolument incapable de réduire la corruption et ses mandats ont été émaillés de nombreux scandales quant à l'attribution de marchés publics. Donc par exemple, un groupe de construction brésilien, Odebrecht, a arrosé de plus de 33,5 milliards de dollars des fonctionnaires équatoriens entre 2007 et 2016. Et Correa s'est pas montré très véhément à démonter tous ces scandales financiers et toutes ces tractations qui concernent en fait directement son gouvernement. Pardon. Donc pour un mec qui se veut le chantre de la propreté, de la lutte contre la finance, ça le fait pas trop. De la même manière, il s'était présenté en grand défenseur du droit des indigènes qu'il a bafoué dès que des intérêts économiques ont été en jeu. Donc on en avait parlé dans l'émission, il a traité les indigènes chouars en criminels alors qu'ils défendaient leur territoire contre une entreprise minière chinoise qui venait piller leurs ressources et détruire tout un écosystème avec des dangers immédiats pour la santé des communautés qui vivent sur place. Et son poulain, en fait, il propose simplement de suivre la même ligne. Donc, ça, j'imagine que ça enchante pas tellement les Équatoriens. Mais il faut avouer quand même que le challenger de droite fait pas mal flipper. Donc, il s'appelle Guillermo Lasso. C'est un bon gros réac. Et il a notamment annoncé qu'il retirerait l'asile politique à Julian Assange. Donc, pour rappel, le fondateur de Wikileaks, qui est toujours réfugié à l'ambassade équatorienne de Londres depuis déjà 2012, donc ça fait 5 ans. Enfin voilà, bon courage aux Équatoriens hein, qui ont à choisir entre la peste et le choléra, même si concernant Lénine Moreno, elle essaye de se déguiser en socialiste. Voilà, entre les promesses des faux alliés et les ennemis de classe affirmés, ça risque de pas être la joie les résultats qu'on devrait avoir jeudi.
Ok, et du coup, on va partir à Barcelone où samedi dernier, 160 000 personnes, d'après la police municipale, ont manifesté dans les rues pour réclamer que l'Espagne accueille les milliers de réfugiés que le pays s'était engagé à recevoir en 2015 auprès donc de l'Union européenne. Donc le défilé a été organisé par Casa Nostra, Casa Vostra, donc notre maison, votre maison. Et la maire de la ville, Ada Colau, soutenait cette manifestation et a même appelé les gens à remplir les rues de Barcelone. Et en effet, l'Espagne ne s'est pour le moment pas du tout... Enfin, n'a pas du tout tenu ses promesses parce que pour le moment, il y a eu 1100 réfugiés d'accueillis dans le pays contre 16 000 annoncés et promis auprès de l'Union européenne. Voilà. Donc, vu d'ici, cette manifestation donc, qui a réuni quand même énormément de personnes à Barcelone et quand même, enfin, ça nous semble un peu irréel. Parce que, bon, voilà, nous, on a un climat qui est plutôt anti-réfugiés, plutôt avec une montée de l'extrême droite de partout, de tous les côtés. Et du coup, bon, bah, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens en Espagne qui se bougent pour les réfugiés.
Et ça tombe plutôt bien que les Espagnols se mobilisent un peu massivement, parce que cette nuit, 300 migrants ont réussi à franchir la frontière de l'enclave de Ceuta au Maroc. Alors, par exemple, on en avait déjà parlé dans l'émission en janvier, suite à une tentative infructueuse donc de passer cette frontière. Tentative qui s'était soldée par des scènes de répression assez gore et de nombreux blessés. Et la plupart des migrants avaient de toute façon été reconduits au Maroc. Donc, pour rappel, l'enclave espagnole, qui est donc la seule frontière terrestre entre l'Europe et l'Afrique, est entourée d'une double barrière grillagée, donc qui fait 8 km avec barbelés, postes de contrôle, caméras. Un bel édifice qui est souvent l'objet d'assauts de la part des migrants, parfois victorieux, donc comme ça a été le cas également dans la nuit de vendredi à samedi, où quelques 500 migrants avaient déjà réussi à franchir la frontière. Donc cette nuit, comme je le disais, ils étaient 300. Alors certains se sont déjà fait choper, mais assez peu. Il y en a 11 qui ont été blessés, hein. C'est vraiment une barrière hyper difficile à franchir, elle fait 6 mètres de haut, il y a des barbelés comme je le disais, donc c'est vrai qu'il y a souvent des blessés, mais la majorité a réussi à se planquer et on s'en réjouit. Alors on s'enflamme pas non plus, parce que comme d'hab, cette réussite c'est pas non plus complètement le fruit du hasard, puisqu'en fait le Maroc a pas mal relâché sa surveillance de la frontière depuis quelques semaines pour peser face à l'Europe. Pour contextualiser un petit peu, fin 2016, la Cour européenne a décidé que le Sahara occidental n'était pas concerné par un accord de libre-échange sur les produits agricoles et halieutiques. Donc l'accord concerne exclusivement le Maroc dans ses frontières telles que définies par l'ONU, donc il ne comprend pas le Sahara occidental, malgré la colonisation marocaine. Donc, oui, parce que le territoire sahraoui, il fait l'objet de tractations quant à sa définition, la définition de son statut juridique par la communauté internationale encore aujourd'hui, hein. Il n'est pas officiellement marocain. Donc, depuis cette décision de la Cour européenne, il y a de nombreuses associations de défense des Sahraouis qui ont remis en cause des opérations commerciales entre le Maroc et les pays européens pour des produits venus du Sahara, sachant que les ressources halieutiques, donc les produits de la pêche, sont extrêmement importantes au Sahara, sur sa façade atlantique, notamment dans la petite ville portuaire de Darla. Du coup, c'est quand même des transactions commerciales hyper importantes pour le Maroc. Et voilà, et donc les assauts sont un peu érigés contre le Maroc qui, de nouveau, bafoue le droit des Sahraouis. Et donc le Maroc, en réponse à ça, a décidé de relâcher sa surveillance de la frontière. Et voilà, donc ça au bénéfice des migrants. Donc comme d'hab, ils sont soumis au diktat des relations diplomatiques, qui sont elles-mêmes déterminées par des enjeux capitalistes. Mais bon, on leur dit de continuer à essayer de se lancer. A priori, là pour le moment, c'est pas encore réglé entre le Maroc et l'Union européenne. Donc tant qu'ils sont en bisbille, il y a moyen que les keufs soient un peu moins chaud à les empêcher de passer, donc faut en profiter en tant qu'affaire.
Il est 19h14, on est toujours sur Radio Canu 102.2 et on va passer au national avec des nouvelles de notre République.
Et oui, des nouvelles du projet de loi qui se nomme donc projet de loi relatif à la sécurité publique, qui a été adopté au Parlement le 16 février, donc jeudi dernier, donc c'est tout frais. Qui est en fait en discussion depuis janvier, mais au final qui n'a pas été si discuté que ça, en tout cas pas au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale, qui n'a pas fait tant polémique que ça à l'intérieur de l'institution. Donc, par contre, il est contesté un peu de toutes parts par les magistrats, notamment, et la Ligue des droits de l'homme, et puis d'autres, plein d'autres, mais voilà, même eux, ils s'y mettent, quoi. Et puis, donc on en parle depuis un moment, mais l'aspect le plus controversé, en fait, de la loi, c'est l'assouplissement des règles pour l'utilisation des armes à feu par les policiers et les gendarmes. Et avec du coup un élargissement des situations considérées comme étant de légitime défense. Donc, sympa. Donc les forces de l'ordre se sentiront plus légitimes à utiliser leurs armes et du coup à tuer plus, parce que dans les cas comme elles tuent déjà, en fait, ça va juste les autoriser à le faire plus. Mais ce n'est pas tout, en fait, parce que ça c'est l'aspect le plus violent, mais c'est aussi une loi qui permet une plus grande anonymisation des enquêteurs dans certains cas. C'est-à-dire que maintenant, sur certains délits, on pourra anonymiser la personne qui a travaillé là-dessus, le policier qui a travaillé là-dessus. Et en fait, c'est complètement contradictoire avec les mesures annoncées plus tôt dans le mandat présidentiel, comme les récépissés après les contrôles policiers, etc. Enfin, donc, totalement, dans le sens contraire. Et en plus, il y a aussi les délits d'outrage à agent, qui sont régulièrement utilisés pour tout et n'importe quoi, qui sont punis par des peines et des amendes qui sont deux fois plus élevées qu'avant. Donc on passe d'amendes qui étaient de 7 500 € à 15 000 euros, et de peines de prison potentielles qui étaient de 6 mois à 1 an. Voilà.
Et oui, les policiers, et il y en a eu beaucoup à Bure ce week-end. Il y a 700 personnes qui sont, une colonne de 700 personnes de manifestants qui se sont étirées entre Bure et le Bois-le-Juc, qui a permis de passer vers le laboratoire de l'ANDRA et les emplacements des futurs travaux liés à l'installation nucléaire à Cigéo. Puis, symboliquement, les personnes ont été invitées à prendre un morceau, vous savez, du mur qui a été détruit en août dernier pour le redonner au labo. Donc, arrivé à l'ANDRA, un important dispositif policier a été vu. Et donc, comme d'habitude, retranché derrière des barbelés, barrières anti-émeutes et autres renforts soldatesques. Il faut savoir que les manifestants étaient de tous âges, de tous horizons, et ont parvenu à renverser les grilles du laboratoire. Donc c'est une première en 25 ans. Donc face aux tombeurs de grilles, les gendarmes mobiles, décidément, c'est les Playmobil, ils ont répliqué par de fortes charges de grenades de désencerclement et assourdissantes qui ont blessé en plusieurs minutes, une vingtaine de personnes, dont deux d'entre elles ont été évacuées vers l'hôpital, tandis que plusieurs d'autres ont arboré des plaies multiples dues aux éclats. Donc, malgré la violence de cette réponse qui est intervenue, alors que les manifestants se retiraient finalement peu à peu, et pour finir, tout le monde est bien rentré sereinement à Bure pour une bonne soirée de festivités sur place. Voilà.
Alors, on va continuer au national. Maintenant, on va vous parler de quelqu'un qu'on commence à bien connaître ici, parce qu'on le suit un peu trop. Une petite histoire, ça sera Macron, l'ogre attrape tout. C'est l'histoire d'un ogre, en fait, qui essaye de manger à tous les râteliers en espérant, en fait, se nourrir. Sauf qu'à force de trop manger partout, il finit par exploser.
Ah, mais c'est sur Mélenchon, en fait, ta chronique, j'avais pas compris.
Non, c'est sur Macron, mais bon, on pourrait, en fait, c'est un truc qu'on peut reproduire au Front National, qu'on peut mettre un peu partout de nos jours, c'est un peu à la mode, ce genre d'histoire, quoi. Et donc, voilà. Donc, depuis un certain temps, en fait, on est de plus en plus nombreux à nous demander, mais quel peut donc bien être le problème de Macron? Donc, vu qu'il n'a pas prévu.
Mais on reçoit des questions des auditeurs en permanence. Hein,
ah, bah oui, mais tout le monde se pose la question, c'est une question au niveau national. Voilà. C'est un nouveau drame national, enfin, c'est une nouvelle thématique de la recherche. Je pense qu'un certain nombre de grands noms de la science humaine, enfin, Finkielkraut doit être là-dessus, j'imagine. attention, c'est à son niveau, quoi. Chacun.
Il prépare une thèse avec Alain Minc sur la question.
C'est probable, ouais, attention, ça va être le nouveau pamphlet de l'année. On va pouvoir vendre des trucs, ils seront contents.
Alain Minc, mon préféré.
Attention. Donc, oui, mais en fait, de fait, toujours au jour, on cherche toujours. Bon, même s'il a prévu de nous le filer pas avant le mois de mars, le plus tard possible, parce qu'en fait, on s'attend tous à une très très mauvaise surprise. Pour l'instant, sa campagne se résume à de très nombreux meetings où, telle une messe évangéliste, il rentre en transe et se prend pour le Christ. Mais hélas pour nous, l'amour universel et la paix dans le monde sont loin d'être ses priorités. Ainsi, selon lui, la poétique, c'est mystique. Pour lui, le programme n'est pas au cœur de la campagne. Donc, alors, j'aimerais bien savoir ce qui est bien au cœur de sa campagne si c'est pas son programme politique. Ça prend en question politique si c'est pas un programme. Enfin, si on n'a pas d'idée, bah, je sais pas. Bon, bah, voilà. Et donc, voilà. Donc,
tu comprends rien à l'immanence, toi.
Voilà, je comprends rien au mystique. Ça doit être ça. Mais je pense que je me drogue pas assez, quoi. Il faudrait peut-être que j'essaie. Enfin, il faudrait déjà lui demander ce qu'il prend. Ça a l'air d'être efficace, en tout cas.
On savait déjà qu'il avait un problème avec le dimanche.
Oui. Bon, bah, si c'était qu'avec ça. Donc, en tout cas, ces derniers girouetteries, il nous pourrait nous laisser penser ainsi. Donc, il ne serait ni de droite ni de gauche. Ainsi, donc en quelques jours, on a eu le droit à un discours en Algérie sur la colonisation qui serait, selon lui, un crime contre l'humanité, ce qui serait plutôt une pensée intéressante. Sauf qu'il a dit ça quand il était en visite en Algérie devant les Algériens. Donc il s'est à peine revenu en France, il est allé faire un meeting devant des pieds noirs, et là, eh ben, il a juste changé de position, il est passé de l'autre côté en disant, il s'est excusé publiquement maintes fois, en disant que ce n'était absolument pas un crime contre l'humanité, à la rigueur un crime contre l'humain, ou pas grand chose du tout, quoi, en fait, finalement, c'est peut-être un détail de l'histoire, enfin, on attend la suite, l'épisode 3. Mais en attendant, on a quand même eu le droit à une magnifique reprise de la magnifique formule gaullienne, le « je vous ai compris ». Cette magnifique phrase, enfin en quatre mots, qui n'a absolument aucun sens, qui déjà à l'époque, en 58, n'en avait aucun, qu'on continue à essayer de comprendre, et qu'en fait, à part qu'il essaye d'enfumer tout le monde, il n'a pas en fait forcément d'autre sens. Mais donc, il aurait répondu ça en expliquant ça, et ce qui était drôle, c'est que ça continue à marcher 60 ans après, c'est que les gens ont applaudi, tout le monde trouve ça génial. Ce qui nous a sorti dans le même genre récemment, c'est qu'on a eu le droit à un truc autour de la question du mariage pour tous et au droit des LGBT. Donc après avoir promis publiquement qu'il ne reviendrait pas sur le mariage pour tous et qu'il défendrait les différents droits des LGBT, il a aussi, quelques jours après, exprimé publiquement que les gens de la Manif pour tous, qui représentaient selon lui une bonne part du peuple français, n'avaient pas été suffisamment écoutés par le gouvernement. Donc voilà, le contraire est ce qu'il voulait dire avant, ben voilà, on continue. Et donc nous avons le droit à un véritable cas d'école de ce qu'on appelle en sciences politiques un parti et donc un candidat attrape tout. Donc le but du jeu, c'est donc attraper le maximum de voix, se rallier aux idées des camps adverses, on déteste la classe gardée pour recruter le plus d'électeurs possible et on se retrouve à des programmes de plus en plus indistincts. Donc en clair, en fait, on n'a pas de programme, on bouffe à tous les râteliers et puis on espère que ça passe. Sauf qu'on peut espérer que ce genre de guignol politique, oui, j'ai le droit de le dire parce qu'en fait, selon le CSA, en fait, le seul droit qu'on a pour parler des hommes politiques à l'heure actuelle en période de campagne, c'est en dire du mal. Donc on va en profiter. On va pas, il n'y a aucune raison après tout.
Ça va, on s'en sort, nous.
On s'en sort, je pense que jusqu'à maintenant, on y arrive plutôt bien. Donc ce guignol politique continue donc à manger à tous les râteliers en espérant attirer le maximum d'électeurs. Et donc on peut juste donc espérer que ce château aux cartes cette illusion et qu'ils finissent dans son délire christique et qu'un jour comme lui, beaucoup d'électeurs ont une véritable révélation et se rendent compte à quel point cet immense personnage est une mauvaise blague.
Et le crucifix, du coup. Crucifix.
Oui, c'est enfin le crucifix sur la place publique.
Et juste une petite parenthèse, il a même dit que les gens s'étaient fait humilier, je crois. Je crois que c'est le terme qu'il emploie, les gens de la Manif pour tous.
Oui, qu'on avait humilié.
Bon, là, par contre, il s'est excusé auprès de personne. Et par ailleurs, toute la terminologie qu'il utilise dans son interview au JDD que tu évoquais, où effectivement, il parle d'immanence et tout, je disais pas ça par hasard. En fait, c'est une vraie rhétorique de faf. Hein. Je veux dire, c'est
Il y a que. Il y a de la personnalité, tout
c'est,
ça.
C'est le sauveur. C'est le sauveur. Voilà, il se présente.
Et puis, avant de parler de crime contre l'humanité, il avait déjà fait un discours où il avait parlé des bienfaits de la colonisation, que c'était quand même quelque chose de quand même assez magique.
Ouais, voilà. Ce mec craint.
Un crime de l'humanité qui est un bienfait pour l'histoire. Bah voilà, on aura résumé Macron ce soir. Merci voilà. Macron.
Donc ce mec craint, mais c'est pas le seul. Et heureusement, ils connaîtront tous le même destin. Tel cet épi de maïs sous le soleil ardent de la Beauce. Tel ce gros grain gras de cette épice sous les rayons qui le dardent, OGM et pesticides, gros tracteurs, farine animale, tel ce grain de maïs huileux qui trémousse et s'agite pour exploser comme un pop-corn sous l'effet de la chaleur torréfactrice du réchauffement climatique. En effet, le cœur de Xavier Belin a explosé. Comme c'est arrivé hier, l'histoire ne dit pas encore si c'est sous la pression de ces milliards ou le cholestérol de ces entreprises qui produisent chacune, en sus de la malbouffe industrielle, une myriade de petits cancers, de malformations, de petits bébés bizarres, stériles et d'empoisonnements et de misères sociales diverses. Donc l'histoire ne dit pas encore justement si son cœur de palmier a lâché ou si c'est un assassinat à la Kim Jong-nam. Ce qui est sûr, c'est que la pamoison des sous-hommes et femmes politiques qui saluent la disparition de ce grand agro-businessman nous fait l'effet de l'absorption d'un tourteau de minerais de viande aux antibiotiques. Grand Manitou de la FNSEA, Xavier Belin est célébré sans vergogne pour cette agriculture apocalyptique qu'il a promue et qu'il a enrichie sans commune mesure, à l'instar de tous ces canards que l'on gave par millions avant de les abattre à 58 ans. Son dernier fait d'armes à ce grand céréalier, à ce tueur de la terre et des paysans, c'est une victoire épique, un pas de géant, un pas de géant vert, pour nourrir l'humanité. Un combat que le super syndicat du crime qu'il dirigeait a plié en deux temps trois mouvements de lobby, à savoir empêcher que l'on interdise l'épandage autour des écoles. Donc ce grand collectionneur de blé, 6 milliards je crois, de porc et d'huile, s'est donc battu jusqu'au bout pour qu'on puisse empoisonner les enfants, la terre, l'eau, pour qu'on fasse toujours de plus de productivisme à la française, et ça lui a bien réussi puisqu'il est décédé à l'âge déjà sumentionné de 58 ans. L'espérance de vie maximum envisagée pour les consommateurs de ces produits. Donc, pour une fois encore, chose trop rare, c'est un pourri qui crève avant l'heure, un ennemi du peuple et de la terre, alors on va pas pleurer. On va plutôt trinquer même et recommander sa dépouille à sa famille sous la forme, pourquoi pas, de farine ou de barres de céréales au chocolat.
Et donc si votre grand chef syndical décède, on est spécialisé en chronique.
La nécro, on a un spécialiste.
Uniquement de syndicalistes.
Ouais, de syndicalistes.
Pas recommandable.
Véreux des jaunes, quoi. On va continuer avec un jaune, mais en même temps, il fait partie d'un parti de jaune, donc c'est normal. C'est Hamon le frondeur. Hamon qui, au moment de sa campagne pour les primaires du PS, annonçait qu'il allait abroger la loi travail. La loi travail contre laquelle beaucoup de gens sont battus, contre laquelle 70% de la population française se disait contre. Donc il voulait abroger le travail. Maintenant qu'il est élu, il est bien dans la merde, ou absolument pas, tout dépend de quel point de vue on se place, puisqu'en fait il doit composer avec ses amis du PS, puisque c'est a priori toujours ses amis qui sont donc qui sont investis pour les législatives. Donc il y a Mireille Conneri, il y a Bruno Leroux, il y a Emmanuel Valls, et donc en fait comme il veut rassembler la gauche, il change de son fusil d'épaule et donc plus d'abrogation, mais une nouvelle loi travail. Donc peut-être que dans quelques mois, s'il est élu, il y a très peu de chances, mais on sera dans la rue pour protester et demander l'abrogation de la nouvelle loi travail de Benoît Hamon. Donc voilà, ça se marche sur la tête. Et puis en même temps, sur d'autres sujets, c'est le renversement aussi. Par exemple, avant la primaire...
C'est l'inversement de la hiérarchie des normes, tu veux dire.
C'est ça, ouais. Avant la primaire, donc, il avait des positions assez cool sur toutes les histoires d'islamophobie, tout ça. Et il disait que, bon, quand il y a eu le reportage de France 2 montrant que les femmes étaient exclues de l'espace public, dans certains quartiers, les cafés, tout ça, il avait dit qu'historiquement, dans les cafés ouvriers, il n'y avait pas de femmes. Et arrêtons de créer des guerres tout le temps, il y a des problèmes, mais ce n'est pas en jetant l'opprobre systématiquement qu'on arrivera à les résoudre. Bon, le mec est un peu tolérant, légèrement. Mais après... Donc là maintenant, au JDD ce dimanche, là, il admet de constater une montée du fondamentalisme et du communautarisme et l'existence, je cite, au sein de l'islam d'une dérive sectaire violente et fanatique. Je cite encore, il y a une offensive très forte des groupes religieux qui testent la République et veulent mordre sur les libertés fondamentales, notamment celles qui concernent les femmes. Donc voilà, dans la catégorie girouette, on a parlé de Macron, on a parlé de Mélenchon, mais Hamon, je pense qu'il pourra, il pourrait peut-être même avoir la palme. Donc Hamon le Frondeur veut rassembler à gauche, mais en l'occurrence là ce qu'il essaye de faire c'est rassembler en fait la droite du PS et la droite du PS. Et d'ailleurs en 2012 il déclarait dans le Figaro en parlant des Frondeurs du PS, je cite, on assure à Hollande le flanc gauche qui évite que certains électeurs se tournent vers Mélenchon. Bon voilà, c'est la politique en France.
Revenons à Lyon. Et le quartier de la Croix-Rousse, donc samedi, il y a eu un nouveau petit train, le Oui Oui City Tram. Un petit train alter-circuit participatif, en fait des clowns qui ont défendu et qui revendiquent l'arrêt de la privatisation du patrimoine communal. Donc il faut savoir la salle des Rameaux, l'ancienne école nationale des Beaux-Arts, etc. Ils défendent aussi le développement de nouveaux services et lieux publics, notamment dans les quartiers en cours de densification tels que la Part-Dieu. Ils veulent une rénovation urbaine par et pour les habitants, sans chantage ni expulsion à Vaux-en-Velin, le gel des loyers pour un accès au logement pour tous et une réquisition des logements vides, donc qui sont 30 000 à Lyon, et la réhabilitation de logements en logements sociaux. Et surtout, un tourisme solidaire, qui soutienne la culture locale et ne dénature pas les quartiers en les standardisant et en les rendant en carte postale. Voilà.
Et alors, du coup, on avait un peu envie de rendre hommage à nos copains, les TCL.
Ouais, si tout le monde avance, et ben c'est chacun qui fait un pas.
Et leur armée de contrôleurs, dont la présence bienveillante rassure tous nos trajets en transport en commun et m'ont personnellement offert mes plus beaux footings matinaux dans les couloirs obscurs des métros lyonnais. Et comme TCL est toujours à l'avant-garde pour nous rappeler qu'on est des parasites et qu'on a intérêt à déserter les transports en commun parce qu'on n'y est pas les bienvenus, et ben le Citral vient d'annoncer une augmentation des tarifs des amendes pour le 1er avril.
Bâtard !
Rien d'étonnant, ils augmentent chaque année à cette date. Donc l'an dernier, on avait déjà mangé 4% d'augmentation. Je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, moi oui. Donc la chasse aux pauvres, c'est toujours le dada du Citral. Hein, et sa présidente Annie Guillemot n'a rien à envier à son prédécesseur, le regretté Bernard Rivalta.
Bâtard !
Annie Guillemot qui doit, quant à elle, pas avoir beaucoup de mal à payer son abonnement puisqu'elle cumule plus d'une douzaine de fonctions d'administratrice, de présidente, de vice-présidente, de postes divers et variés dans des organismes publics. Donc je rappelle quand même qu'un ticket coûte 1,80€, 2 balles quand tu l'achètes à bord, et un abonnement mensuel 60,10€, je crois, un truc comme ça. Donc, je vois tous trépigner, hein, vous attendez avec impatience les nouveaux tarifs de ces amendes.
Bah ouais, grave. Est-ce que ça va être...
Et bam, bah c'est 60€.
Ah, je bam, une journée de taf. Allez, ouais. Hop.
Et ce, quelle que soit la nature de l'infraction. Donc avant, il y avait deux types d'infractions. Hein. Le défaut de titre de transport, donc c'était 51,50€ ou 89,50€ si on ne payait pas sous 7 jours. Mais il y avait aussi une infraction pour titre de transport non valide. Donc soit on n'a pas le bon ticket, ou on a oublié de valider son ticket
ou
en entrant dans le tram.
Ou qu'on n'était plus étudiant.
Ou voilà, qu'on n'était plus étudiant, qu'on n'avait pas le bon ticket. Ça coûtait déjà quand même 35€ sur le coup et 72€ après 7 jours. Bon, maintenant, au moins tout le monde est logé à la même enseigne. C'est 60 balles, quelle que soit la nature de l'infraction. Et passer le délai de 7 jours, c'est 110€. Et ouais, ça y est, on a passé la barre fatidique des 100€.
Ils vont bientôt aligner la légitime défense sur les salles des flics.
Sans aucun doute.
T'as pas ton billet, une balle.
Bon, on peut se réjouir. Hein, on va vraiment devenir des champions du sprint avec ça. D'autant que depuis 2013, je rappelle que les contrôleurs peuvent sévir en civil dans les transports en commun lyonnais. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est particulièrement horrible. Hein.
Après, le sévice.
Après, c'est simple, tu soupçonnes tous tes voisins de métro d'être des traîtres. C'est la porte ouverte à la paranoïa. J'ai déjà failli buter quelqu'un comme ça. À chaque fois que j'entre dans le tram, j'essaye de démasquer le traître dans l'assemblée. Ça ne donne pas une super ambiance.
En plus, ils cherchent spécialement les gens qui n'ont pas validé.
Bah oui, ils regardent. Ouais. Alors pour les reconnaître, hein, des petites techniques, ils ont souvent quand même une petite besace. Donc ça, c'était en 2013.
Une banane ou une besace ?
Une besace.
Tout le matos. Mettre la faux à l'intérieur, tu sais, la faux est là.
Et il n'y a pas de faux aussi.
Depuis l'arrivée des cow-boys contrôleurs en tenue civile, on a aussi eu le droit à la loi Savary, donc qui criminalise encore un peu plus les pauvres, notamment en prévoyant une amende de 7 500 € et 6 mois de prison pour fraude habituelle. Alors, fraude habituelle, c'est plus de 5 amendes annuelles.
Waouh.
Voilà, oh, maman, je te communiquerai mon numéro d'écrou après l'émission. Ou encore 3 500 € d'amende et 2 mois de prison, donc... si vous annoncez sur des applis ou les réseaux sociaux la présence des contrôleurs sur le réseau. Voilà. Donc c'est de plus en plus chaud de resquiller. Hein. On se souvient ému de l'époque où il n'y avait même pas de portique. Mais c'est encore plus compliqué de payer les abonnements puisqu'ils sont à des prix exorbitants. Donc on n'a pas bien le choix de resquiller ou pas. Donc on va continuer à le faire quoi qu'il en soit. Avec 23 000 contrôles quotidiens, c'est les chiffres...
23 000
des Keolis,
ah, c'est énorme.
Tout à fait. Ça risque donc de faire plutôt du bien à Citral, ces nouvelles amendes. Une fois de plus, c'est les plus pauvres qui trinquent, mais gare à la revanche. Hein.
Ouais.
Un jour, c'est nous qu'on conduira les bus.
Ouais.
Mais c'est déjà nous qui les conduisons.
Un truc à voir sur ces questions d'augmentation, c'est que aussi jusqu'à maintenant, en fait, les contrôleurs n'étaient juste pas rentables. En fait, ils contrôlaient, mais en fait, ils coûtaient plus cher qu'ils ne rapportaient. Donc, on peut espérer.
Ça
sera encore le cas. C'est fort probable que ce soit encore le cas, mais on peut penser que ça soit une des pseudo-justifications qui a été utilisée pour enfin rendre ces abrutis rentables.
Et je rappelle quand même que ils n'ont pas le droit de vous retenir hein, quand ils vous mettent une amende. Ouais, il n'y a que la police qui ont le droit de faire ça.
Donc
je faisais des blagues sur les sprints, mais ça fonctionne et ça vaut le coup.
Mais ils sont en général assez balèzes et en fait ils te retiennent quand même. Hein.
Mais ils n'ont pas le droit.
Ouais, mais en fait.
Ça vaut le coup.
Tout le monde déteste
les camarades
et
l'école.
Et la République déteste les gens qui critiquent les flics, puisque le samedi dernier, un meeting contre le racisme et les violences policières, la chasse aux migrants, a été interdit par la ville de Lyon, la ville de Vaux-en-Velin PS. Et donc, ce meeting se tiendra donc dimanche 26 février, si tout va bien, à la Maison des Passages, 44 rue Saint-Georges, Lyon 5e, avec la participation de Omar Slaouti, Ramata Dieng, Amada Sidibé, Nassira Guenif, Julien Salingue, Georges Gumpel, Sonia Moussaoui. Ça risque d'être très intéressant, c'est à partir de 14h30 et ça va durer jusqu'à 19h30 environ. Il y a plein d'interventions et c'est en prévision de la grande marche de la dignité, de la justice et de la dignité du 19 mars prochain.
C'est dimanche prochain.
C'est ça.
À vous.
On va passer maintenant au grand dossier de ce Canu Info après la musique.
C'est au numéro 32 de l'avenue de la République que j'enseigne aux petits merdeux les théories philosophiques, que je traduis le tébello, que je trahis les philippiques pour aider les petits salauds, les premiers prix de gymnastique. Soit la progéniture du brasseur, du primeur en gros. Je suis le marchand de culture, l'empêcheur de petits héros. Je suis le bon dieu des rombières, l'ange du baccalauréat, le petit besogne pas cher, le pédago petit format.
Nous allons vous parler aujourd'hui de l'école publique en France. Faut-il la sauver ?
cette école, sous le feu des critiques, des réformes pédagogiques, budgétaires, politiques, parée de toutes les vertus et pourtant accusée de tous les maux, reproduction sociale, humiliation collective, formatage des générations, système carcéral visant à reproduire toutes les dominations et la concurrence capitaliste, a aliéné au plus tôt l'individu pour l'intégrer au nouveau réseau cybernétique mondial qui s'empare aujourd'hui de l'éducation. Faut-il donc cette école publique la défendre ? À quoi sert l'école de la République, l'éducation nationale ? Et surtout, que pourrait-on en faire ? On est bien sûr incapable de répondre à toutes ces questions qui sont bien trop compliquées pour nous. Mais on va essayer de vous brosser un petit tableau à quatre parties qui retrace les enjeux d'une éducation dite nationale, de sa genèse au XVIIIe siècle, en passant par le réenchantement de mai 68 et les désillusions de l'école post-attentat.
Sans langue, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé, alors tirez dessus. Si mes doigts n'ont plus d'angle, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé, alors tapez dessus. Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne connais pas mes leçons par cœur.
Alors pour commencer, cette école de la République, bah, elle n'a pas toujours existé évidemment, et elle n'a pas toujours surtout été nationale. Donc avant la Révolution française, avant qu'il y ait une vraie nation, l'éducation c'était surtout l'affaire à la fois de l'Église, de la monarchie, et il y avait quand même pas mal d'éducation populaire autour. Toutes ces formes d'éducation, elles avaient un but social, un but d'ordre, mais c'était surtout d'être des bons chrétiens et de faire en sorte qu'il y ait un minimum de civilisation. Alors avec les Lumières, il y a de nouveaux idéaux et l'école a été investie, l'éducation a été investie d'une mission plus profonde qui était d'amener une nouvelle société. Puisque les jeunes allaient grandir, eh bien l'éducation devait justement former cet avenir et produire un monde nouveau. Alors ça se retrouve par exemple pendant la Révolution, avec des discours sur l'éducation de Babeuf, un des conjurés de la République des Égaux, et qui explique que finalement, il suffirait de vaincre les préjugés et les mensonges, et que si on avait justement éliminé chez le peuple, chez les masses, une sorte de surajout de contre-science, eh bien, ça aurait permis de conduire à la raison, naturellement, d'accoucher d'une société meilleure. Alors après la Révolution, c'est pas du tout cette optique-là qui va être choisie, mais ça va être plutôt celle de Napoléon, des lycées, des grandes écoles, et un État qui crée des élites d'un côté, et de l'autre hésite entre le catéchisme et la formation des futurs ouvriers, dans la docilité et l'obéissance du patriarcat. Alors... Après Napoléon, pendant la Restauration, il y a une guerre entre le haut clergé et l'université, mais il y a quand même des grands courants éducatifs, comme le fourierisme par exemple, qui en France ont été défendus par Victor Considérant, et qui développent, qui cherchent à développer dans les cœurs, les sentiments les plus purs et les plus hautes vertus sociales. Surtout, tout ce que les pédagogues socialistes, communistes de l'époque font comme constat, c'est qu'il est impossible d'instruire le peuple sous un régime capitaliste. L'école publique qui peut en émerger est fortement liberticide et avant tout l'éducation a la vocation à être subversive pour provoquer la révolution, régler le problème des inégalités matérielles et de la distribution des richesses, et que finalement l'école ne peut pas être une solution mais qu'elle sera au contraire une conquête, quelque chose qui interviendra après qu'on ait réglé le problème de la justice sociale. Donc il y a 33 millions de Français à cette époque, et 28 qui sont sans éducation nationale, publique, mais justement, ces considérants font école, et il y a par exemple l'école mutualiste, et plein d'éducation populaire qui fonctionne très bien, les gens payent, et on a des profs, des instits, qui font le job. Par exemple, c'est Michelet qui conçoit l'enseignement dans une société avancée comme étant la fonction de tous, ou de presque tous, et il n'y a quasiment personne, il ajoute, qui, à un certain moment, en parlant avec plaisir et force, n'enseigne à son insu et excellemment bien. Alors qu'est-ce que ça va donner ces éducations populaires, ces écoles mutualistes? Ben, ça va donner la commune, ça va donner un peuple qui s'éduque lui-même et qui devient révolutionnaire. Alors après la répression de cette commune, eh bien le pouvoir bourgeois, l'université et aussi l'église font le constat qu'il faut absolument éviter que le peuple apprenne lui-même et qu'il crée lui-même son éducation. Mais comme celle-ci est nécessaire, eh bien ils vont décider de la produire industriellement et ils vont créer une éducation nationale qui aura vocation à créer du sentiment d'appartenance pour contrarier l'internationalisme et le communisme des classes populaires qui étaient construits, qui émergeaient, et pour créer du petit français. Avec la guerre de 14-18, ça va être sanctifié, ça va marcher. On va éliminer des gens comme Thierry, par exemple, et un grand nombre de pédagogues. Et ainsi, l'école de la République, qui crée du français, qui crée de la nation, eh bien, va être durablement installée. Il va falloir attendre mai 68 pour que ces idéaux de lumière, ces idéaux de justice et de liberté apparaissent, réapparaissent.
Mai 1968, le prolétariat est en grève. Les étudiants issus des classes moyennes et de la petite bourgeoisie, eux, aspirent à plus de liberté. Contestant l'ordre établi, l'autorité, le capitalisme, l'impérialisme américain, la jeunesse monte des barricades et balance des pavés sur les policiers. À la fin du mois, les accords de Grenelle et la dissolution de l'Assemblée nationale mettent fin au mouvement. Mais pour combien de temps? L'État joue la carte de l'apaisement. Excusez-moi, j'ai mal recopié. pour une jeunesse réaliste qui demande l'impossible en concédant des réformes dans le domaine de l'éducation. L'école devient mixte, la création des conseils de classe, la transparence dans la rédaction des programmes qui véhiculent alors moins d'idéologie nationaliste et guerrière, amélioration du statut de l'élève et de l'enfant, abandon des châtiments corporels, du moins sur le papier, recours à davantage de psychologie, etc. etc. Mais enfant terrible du mouvement de mai, l'université expérimentale de Vincennes, réclamée par les étudiants les plus politisés et nombre d'intellectuels, voit le jour, toujours dans cette volonté d'apaisement, mais également car l'État y voit l'occasion de parquer les trublions dans une même enceinte, plutôt que de voir le péril rouge et noir se propager. Construit pendant l'été en un temps record, le campus ouvre à l'automne 68 au cœur du bois de Vincennes en région parisienne. Elle promeut un autre système d'enseignement. Suppression des cours magistraux, des limites d'âge, ouverture aux paysans et au bac moins 3, naissance d'un département de psychanalyse, création de cours du soir pour les ouvriers, autant de choses impensables pour un pouvoir gaulliste à bout de souffle. Pendant 12 ans, Vincennes attire les meilleurs professeurs du pays, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Hélène Sixous, Michel Serres, Alain Badiou, Giorgio Agamben, François Châtelet, Jean-François Lyotard et bien d'autres. Une université qui ne délivre pas de diplôme officiel, mais qui devient de plus en plus prestigieuse, la plus prestigieuse du monde. Une université libertaire et horizontale où professeurs et élèves se tutoient, s'appellent camarades, où le cours de philo enchaîne avec celui d'expression corporelle, un lieu d'organisation politique. Vincennes s'impose comme la plaque tournante des idées révolutionnaires et d'extrême gauche. Mais au fil des années, ce joyeux chaos libertaire se trouve notamment miné par des affaires de drogue. L'État saute sur le prétexte idéal pour fermer Vincennes et fermer le campus en 1980. Il n'en reste aujourd'hui aucune trace. Aucune plaque dans le bois de Vincennes ne mentionnant son existence passée. Vincennes, rayé des livres d'histoire, disparaît des mémoires.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. chances de s'en sortir tirant nos marteaux. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Spin des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir tirant nos marteaux. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Et il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
Eh oui, il crie vengeance. Donc l'école, on voit bien, lieu d'insécurité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, surtout avec des attentats? Voilà, c'est... on se sent pas en sécurité. Et l'école, donc, c'est aussi le lieu des politiques sécuritaires, d'application de politiques sécuritaires, avec de plus en plus d'intrusion de ces politiques au sein des établissements. Notamment depuis les attentats, mais déjà avant en fait, parce que les collaborations entre institutions scolaires et policières sont récurrentes et existent depuis le début des années 90. Déjà dans un rapport de fin 2016 rédigé pour l'Université de Paris-Est-Créteil, il y a eu au moins 12 plans anti-violence entre 1991 et 2009. Donc juste rapidement... deux des plus importants, en 2004, notre cher François Fillon, alors ministre de l'Éducation, signe avec le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, une disposition qui fait que chaque établissement considéré comme sensible a un gendarme et un policier attitré. En 2009, ce dispositif est augmenté de ce qu'on appelle des équipes mobiles de sécurité. Donc on revient au Playmobil. Non, elle n'est pas là. Tant pis. Donc les équipes mobiles de sécurité. qui sont recrutés notamment parmi les policiers retraités. Donc c'est une mesure qui est annoncée par Xavier Darcos, mais mise en place par Luc Châtel juste après.
Alors les EMS, pour qui on a déjà vu en vrai, ce qui est quand même ma chance, c'est un truc entre Pascal le grand frère et la BAC. Et ça donne vachement confiance dans ton bail en général.
Et Bogdanov aussi. Hein.
Ah, le mec s'appelle Darcos quand même. Hein.
ouais. Ouais, c'est pas pour rien que c'est des policiers retraités qu'on recrute, hein. Voilà.
40 ans.
Ou des vigiles.
Ou des vigiles
retraités. Ouais.
Voilà. Des vigiles hein. Dont le QI dépasserait malencontreusement les 75.
Et ça pose l'ambiance directe, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc leur mission à ces gens-là, c'est d'accompagner et d'aider les établissements en cas de forte tension ou en cas de crise liée à l'insécurité. Donc, ça veut rien dire. D'assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements et leur abord. Donc pareil, ça veut toujours rien dire. C'est des vigiles, voilà, c'est des vigiles. Et améliorer la prise en charge des élèves aux conduites problématiques.
Et d'être des grosses balances aussi.
Ouais.
Parce que
bah,
moi, voilà. Ce que j'ai vu, c'était des bonnes grosses balances.
Bah voilà, la prise en charge des élèves aux conduites problématiques. C'est ça que ça veut
dire.
C'est
qui lui là? C'est un dealer, oui.
Bon, allez.
Voilà, ils allaient soutirer des informations à leurs camarades de classe en prétendant qu'ils communiquaient pas avec la police. Et tous les soirs, ils faisaient leur rapport au keuf, tranquillou.
Ok.
Alors, si vous avez des EMS dans votre bahut, vous leur dites rien.
rien de garanti.
Ça a l'air sympa.
Et rien de vrai.
Et donc au fur et à mesure du temps, cette politique est continuée et amplifiée sous les différents gouvernements de gauche et de droite. Je sais pas les mêmes noms. Globalement pour les politiques, mais ça s'amplifie, notamment avec les assistants de prévention et de sécurité. Bon, c'est à peu près la même chose que les EMS, d'après ce que j'ai compris, sauf que c'est plus dans les bahuts, vraiment dedans. Ils sont recrutés sous le même statut légal que les surveillants, en fait. Sympa. Et ces dispositifs restent le plus souvent un peu de la poudre aux yeux, par contre, parce que c'est vrai que il n'y a pas énormément d'embauches là-dessus, c'est des emplois qui sont hyper précaires, c'est pas un truc, c'est un truc pour dire aux gens, voilà. On met des policiers, vous inquiétez pas. Les quartiers sensibles sont bien quadrillés. Et depuis les récents attentats, d'autres dispositifs sécuritaires sont mis en place et applicables, quant à eux, par le personnel enseignant directement. Donc enseignant ou encadrant, donc ça inclut les pions, tout ça. Donc avec le plan Vigipirate. Donc avec le plan Vigipirate, donc pareil, je vous en cite que quelques-uns, mais on est censé accueillir les élèves, enfin un adulte doit accueillir les élèves, donc ça veut dire que concrètement, 15 minutes par heure, il y a quelqu'un qui va devant le portail du lycée et qui attend, et il se passe rien en général, hein, parce que qu'est-ce que voulez-vous qu'il se passe, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a aussi l'organisation des exercices attentats, enfin non, attentats-intrusions, qui ont régulièrement dérapé avec des faux terroristes qui n'ont pas hésité à crier « Allah Akbar » pour soi-disant rendre la situation plus crédible. Donc on imagine bien l'impact sur les plus jeunes, notamment les primaires et les maternelles, chez qui il y a aussi des attentats. Non. non, justement, des exercices attentats.
Justement, c'est des attentats. C'est oui. Des attentats psychologiquement. Enfin,
c'est des terroristes en herbe, simplement.
S'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Et quand on impose à des maternelles, à des primaires, des exercices consistant à se cacher sous la table, à rester silencieux pendant une demi-heure, pendant qu'un adulte déguisé, armé, vocifère et les menace, c'est un attentat. Et c'est un attentat de l'État sur les consciences et la psychologie de toute une génération.
Et donc il y a aussi cette histoire d'attroupement devant les établissements qui sont interdits, donc c'est marrant parce que les lycéens fument, et du coup ils vont dehors pour fumer, donc ils sont en groupe pour fumer, et du coup ça a créé plein de problèmes. C'était hyper compliqué à gérer, et il y a même des proviseurs qui ont eu des amendes, parce qu'ils laissaient les lycéens fumer à l'intérieur. Et du coup ils ont eu des amendes pour ça, bref. Parallèlement, alors qu'on dénature le travail des profs et des pions à policer les élèves, à poser des barrières dans les cours de récréation, à faire ouvrir les sacs à l'entrée, c'est des professions qui connaissent aussi une précarisation croissante, faut pas l'oublier, avec de plus en plus d'embauches contractuelles, notamment dans les mêmes lycées considérés comme sensibles, qui sont ceux aussi qui connaissent les dispositifs sécuritaires les plus développés. Ouais. Et donc on s'étonne que le système, que l'éducation nationale soit un peu en crise, et la solution, plutôt que de réfléchir à ça, c'est de faire rentrer le monde de l'entreprise dans les lycées, avec une mainmise croissante des entreprises et la numérisation des programmes.
On est toujours sur Radio Canu, c'est le dossier éducation nationale, et on va donner la parole à MC Macron.
Quelle est la situation aujourd'hui que nous vivons, Jacques Bourdin ? Vous avez en moyenne en France 20%. Les enfants de CM2 qui ne savent pas lire, écrire, compter. Beaucoup de la France qui a peur, qui se sent déclassée, celle dont vous parlez, Pascal. Le sujet de l'éducation est un sujet absolument prioritaire. Le devenir de leurs enfants, ce qui va leur arriver, la possibilité de trouver un emploi, qu'ils habitent dans la France périphérique rurale ou dans la France des quartiers. Devenu majeur, je m'engage, et je le préciserai dans les prochains jours, à investir massivement dans les premières années, en mettant plus de moyens, en dédoublant les classes dans tous les quartiers qui sont les plus en difficulté, où les difficultés se concentrent. Vous dédoublez les classes dans les quartiers dits prioritaires, dans les quartiers les plus populaires, dans les quartiers prioritaires, pour les deux premières années du primaire, la dernière année du maternel. Oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire.
Alors, on va partir donc sur l'école numérique. Merci Macron pour ce flow ambiançant. Donc rapidement, l'école numérique c'est quoi en fait ? C'est un plan qui vise à équiper 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens, et surtout des collégiens, de tablettes équipées également de logiciels Microsoft. Mais quel beau marché a donc signé le géant de l'informatique avec l'éducation nationale ? Attention, 13% de sa part de marché en France quand même. C'est pas mal, il a bien réussi son coup. Et donc, les élèves pourront dès lors travailler sur des tablettes, être connectés chez eux, sur leur espace de travail. Les profs et les parents pourront encore une fois surveiller ce travail, s'il est bien fait, etc. Mais ils pourront aussi avoir un apport culturel important, comme visiter des musées numériques. Mais c'est super, plus de déplacements, plus de sorties, on reste connectés.